Chers auditeurs, on aurait pu penser que la mort de Robespierre, le 11 Thermidor an 2, c'est-à-dire le 29 juillet 1794, aurait fait passer sur le pays un souffle de liberté et que prêtres et fidèles auraient pu en bénéficier. Effectivement, furent prises des mesures permettant progressivement la reprise des cultes tout en multipliant cependant les restrictions. Le 21 février 1795, la Convention décréta la liberté des cultes sous certaines conditions très strictes, il est vrai. Le 30 mars suivant, le 11 prédial an 3, un autre décret établit que les communes pourraient mettre les églises non aliénées à la disposition des fidèles. La plupart des églises du Pays basque retrouvèrent leur destination première. La cathédrale de Bayonne, bien endommagée, il est vrai, fut ouverte au culte en juillet 1795. Les paroissiens adressèrent une requête à la municipalité pour qu'on y fît des réparations. Ils n'eurent guère de succès dans leurs demandes et ils durent engager eux-mêmes des dépenses pour mettre leur église hors d'eau. À cet effet, des quêtes furent autorisées et, par leur générosité, les fidèles manifestèrent que leur attachement au culte catholique demeurait bien vivace. Les difficultés venaient des sonneries de cloches, de celles qui avaient échappé à la fonte. Il y en avait tout de même un certain nombre, et ces sonneries avaient la faveur du bon peuple, surtout à la campagne. Les autorités du district y étaient opposées parce qu'elles constituaient, disait un décret les interdisant, un moyen inventé pour éluder la loi et conserver au culte un caractère de domination. Un peu plus tard, un autre décret, émané de l'administration centrale des Basses-Pyrénées, reprenait cette défense, considérant, disait-il, que la liberté indéfinie qu'ont tous les Français d'adorer à leur manière le Père commun des hommes doit être respectée par toutes les sectes qui se doivent une tolérance mutuelle pour leurs opinions et une parfaite égalité dans l'abolition de tous les signes extérieurs dans les édifices servant à leur culte. Un autre problème se pose aux autorités, celui des presbytères et de leur occupation par les ministres du culte. Un certain nombre de ces bâtiments ont été vendus. L'étau s'étant quelque peu desserré, on assiste au retour sur la scène de prêtres que les événements avaient éloignés du ministère. Mais il leur fallait cependant signer auparavant un engagement prévu par les nouvelles dispositions légales avec un serment auquel on pouvait, à la rigueur, donner une signification purement civile. Plusieurs déprêtrisés acceptèrent ce document, signe que leur déprêtrisation n'avait constitué pour eux rien de très sérieux. Ainsi, Dolla Berriag le signa le 20 octobre 1795 et d'Iturbide le 4 décembre. Au Pays basque, plusieurs prêtres déclarèrent ainsi se soumettre aux lois de la République. Les registres des délibérations municipales, par exemple à Baïgorry, en gardent la trace. Des prêtres exilés en Espagne firent bientôt leur apparition, mais avec beaucoup d'hésitation et de prudence, car le contexte ne leur était pas favorable et certains préférèrent repartir. À la cathédrale, le culte catholique se déroulait désormais parallèlement au culte décadaire. L'année 1798 fut une période faste pour ce dernier, pour le culte décadaire, avec la célébration de plusieurs solennités ou anniversaires, par exemple celle de la juste punition du dernier roi des Français le 21 janvier. celle de la souveraineté du peuple, celle de la liberté à l'anniversaire de la mort de Robespierre et plusieurs autres fêtes du même genre. Les difficultés venaient surtout de la désignation du ministre responsable. Constitutionnel et réfractaire étaient en compétition et il n'y avait pas d'évêque pour leur assigner une mission. En l'absence d'une autorité hiérarchique, leur réconciliation se faisait mal. Les déportés rentraient de plus en plus nombreux et faisaient valoir leurs droits sur leurs anciennes paroisses. Le 28 décembre 1800, il y eut des désordres à la cathédrale de Bayonne à l'occasion de sa prise de possession par d'anciens prêtres réfractaires. Le sacristain fut agressé, maltraité et meurtri dans la sacristie. Quel bilan peut-on établir pour cette décennie d'agitation et de bouleversement? Depuis 1789, la société basque a changé de visage. Elle a perdu ses forts et ses coutumes et le jacobinisme lui imposera un droit social qui n'est pas du tout dans sa tradition. Dans l'immédiat, il s'agissait de prendre parti pour ou contre le nouvel ordre des choses. On peut imaginer ce que ce choix difficile et plus ou moins sincère, en raison même de cette difficulté, pouvait générer de divisions et de conflits au sein même des communes et des familles. On pense par exemple au bataillon de chasseurs du général Arispe, constitué de conscrits, mais aussi de volontaires, recrutés parmi les jeunes du Pays basque. Ils devaient s'affronter à la Légion de Saint-Simon, organisée en Espagne par les exilés, où l'on trouvait une compagnie dite de Percaine Sorainde. On connaît les noms de plusieurs jeunes Basques qui s'y étaient engagés et qui, faits prisonniers à Saint-Jean-Pied-de-Port, furent condamnés à mort par la commission militaire que Pinet et Cavaignac avaient installée dans cette ville. Le renouveau de la société et de l'État, par la mort des tyrans que se proposaient les révolutionnaires, devait atteindre également les individus. Allait donc disparaître le fanatisme, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, la croyance en des dogmes, et la superstition, c'est-à-dire toutes les pratiques du culte catholique. Leur action, celle des révolutionnaires, se voulait régénération, et celle-ci se ferait grâce à une nouvelle religion ayant comme dogme la liberté et la souveraineté du peuple et comme morale la justice et la fraternité. Elle avait également ses rites et ses symboles, calqués d'ailleurs le plus souvent sur ceux de l'Église, en vertu d'un transfert sur le plan naturel du sacré chrétien. Cette régénération était symbolisée par l'eau que l'on buvait au cours d'un repas pris, disait-on, à égalité et en public, et qui rappelait l'eau du baptême et le repas eucharistique. Ce rite fut appliqué à la ressort après la messe célébrée par le citoyen curé au cours de la cérémonie qui se déroula à l'occasion de la mort de Marat, le conventionnel tué par Charlotte Corday. On devait ce jour-là porter un baril d'eau de la fontaine d'Acoténéa, la plus pure des environs, disait le décret, pour boire à l'exemple des braves sans-culottes de Paris l'eau de la régénération. Quand le pouvoir passa aux mains de Robespierre, qui était théiste, il fallut célébrer l'être suprême et proclamer l'immortalité de l'âme. On le fit à la cathédrale de Bayonne et dans un certain nombre d'églises du Pays basque. Mais quand le culte catholique fut rétabli, on s'aperçut que la foi révolutionnaire n'avait pas poussé de racines profondes dans le cœur des Basques. Pourtant, quelques parents n'avaient eu recours qu'à ce culte décadaire pour leur nouveau-né. D'autres s'étaient abstenus d'une démarche religieuse quelconque en raison des difficultés et du danger. Après le Concordat, les curés devront se livrer à des recherches pour rétablir le statut catholique d'un certain nombre de leurs paroissiens. Mais ce qui demeurait dans l'esprit de beaucoup, c'était les notions de liberté et de souveraineté du peuple, et cela comme un progrès et une aspiration dans l'organisation de la société et du pouvoir politique. On allait s'en rendre compte après la période autocratique de l'Empire, quand la Restauration voudra rétablir l'alliance étroite du trône et de l'autel. Elle se heurta aux partisans farouches des acquis de la Révolution, ces acquis qui seront à la fin du siècle les valeurs sur lesquelles se construira la République. Nous aborderons la prochaine fois l'histoire du nouveau diocèse de Bayonne après le Concordat de 1801.